Vous parlez de l'ISLF et essayez d'envisager le projet de Georges Gurwitch et d'Henri Jeanne sous l'hypothèse d'une école. Alors l'objectif ne sera pas tant de déterminer si oui ou non on peut parler d'école, l'exercice serait bien périlleux, que d'en faire ressortir les caractéristiques les plus saillantes. Je commencerai par rappeler brièvement les circonstances et les motifs de la fondation de l'ISLF en 1958, à partir d'un constat et d'une conviction pour mieux interroger la sociologie francophone. J'aborderai ensuite l'espace d'influence qu'a permis de créer l'ISLF, en essayant de résister à celle de la sociologie américaine. Enfin, je reprendrai les critères d'une école établie par Édouard Thiriakian pour les appliquer à la sociologie francophone et essayer de répondre à la question générale du colloque. Et j'essaierai d'en proposer quelques autres à partir de l'exemple de l'ISLF. Alors, c'est dans le but de défendre la sociologie d'expression française que l'ISLF, Association internationale des sociologues de langue française, est créée en 1958 par Georges Gurwitch, français d'origine russe, et Henri Jeanne, sociologue belge. Leur projet part d'un constat, le déclin du français dans les instances internationales comme l'AIS, et d'une conviction, les qualités spécifiques de la langue française confèrent à la sociologie d'expression française une valeur scientifique particulière. Alors commençons par le constat du déclin du français comme langue de travail au sein de l'AIS, qui se fait dès le début des années 50. En fait, à la fondation de l'AIS en 1948, le français et l'anglais sont déclarés les deux langues officielles ou langues de travail de l'association. La reconnaissance du français au sein de l'AIS se justifiait aussi par deux éléments. Tout d'abord, le français était encore à cette époque considéré comme la langue diplomatique, et par ailleurs, l'UNESCO, dont le département de sciences sociales était en partie à l'initiative de la création de l'AIS, avait installé ses bureaux à Paris, renforçant la position du français sur le plan international, culturel et scientifique. Ainsi, les premières réunions préparatoires à la fondation de l'AIS sont organisées en 1948 à Paris, par le département de sciences sociales de l'UNESCO, réunion auxquelles participent les sociologues importants de l'époque, comme Georges Davy, qui deviendra vice-président de l'AIS, Gabriel Lebras et Georges Gurwitch. Ainsi, depuis sa création jusqu'en 1970, il y a toujours eu un représentant français au comité exécutif de l'AIS et fréquemment des responsabilités importantes, Georges Davy, vice-président, mais également Raymond Aron, jusqu'à la fonction de président tenue par Georges Friedman en 1956. Pourtant, dans les années 50, l'hégémonie de la sociologie américaine commence à être bien établie et la pratique du français devient largement minoritaire dans les colloques et les congrès. Sa position dans l'expression de la sociologie sur la scène internationale semble menacée. Et face à cette menace, Gurwitch propose en 1954 d'ouvrir une section francophone à l'AIS, proposition qui sera rejetée sans qu'on sache réellement les différents arguments débattus à ce moment-là. À la nomination de Georges Friedman à la présidence de l'AIS en 1956, ça ne change guère la situation du déclin du français, qui reste officiellement l'une des langues de travail de l'AIS, mais très peu pratiquée dans les congrès. Et la place hégémonique monopoliste de l'AIS au cours de la période 48-58 se traduit par l'adoption du français comme langue de la sociologie. Or, Gurwitch et Jeanne, les deux fondateurs de l'ISLF, partagent une conviction qui sous-tend la naissance de l'association, à savoir que le français revêt une spécificité qui le rend particulièrement adapté à l'analyse sociologique. Chez Gurwitch, par exemple, le choix du français renvoie des motifs personnels, selon Yvonne Roux. Si le russe était sa langue maternelle, il l'avait appris très tôt, dès l'âge de 4-5 ans, le français, mais aussi bien l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Il publie en 1922-24 en russe et en allemand. Ses thèses de 1930-31 sont en français. Et puis, lorsqu'il est aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il découvre la sociologie américaine, il publie en anglais. Donc, le choix du français n'est pas un choix par défaut pour Gurwitch, mais un choix raisonné en raison de ses caractéristiques, de ses qualités particulières qu'il lui attribue. Alors, quelles sont-elles? Toujours selon Yvonne Roux, le russe était bien sa langue usuelle, sa langue réflexe pour les activités du quotidien, mais le français était pour lui la langue de la pensée. En effet, de son propre aveu, alors qu'il n'avait jamais pu éliminer les incorrections grammaticales et syntaxiques de la langue, Gurvitch pensait et écrivait en français. Il admirait le français et lui attribuait des qualités de richesse, de clarté, de précision et d'élégance. Pour Henri Jeanne, la langue française, écrit-il, en raison de sa production littéraire et philosophique considérable, était devenue un instrument exceptionnellement raffiné de traduction de la pensée humaine. Alors que d'autres langues s'attachent à l'expression de l'affectivité ou à la précision descriptive, la spécificité de la langue française consiste à privilégier la représentation rationnelle des choses, des êtres et des idées, tout en recherchant l'universel. Pour les fondateurs de la ISLF, donc, la langue française est un outil d'explication et d'élucidation particulièrement adapté pour l'analyse des relations sociales. C'est cette conviction qui fait que la ISLF ne s'est pas définie à partir d'un périmètre politique réduit à la sociologie francophone, ni seulement culturel ou identitaire, mais avant tout à partir d'un périmètre scientifique, les sociologues de langue française, c'est-à-dire un périmètre beaucoup plus large, d'ambition plus internationale. La défense du français comme outil scientifique de la sociologie aboutit aussi à l'idée d'un droit du sociologue à user de sa propre langue et du devoir de faire reconnaître sa légitimité et son espace dans la pratique de la sociologie. En effet, selon les fondateurs, céder à la domination linguistique de l'anglais dans l'expression de la sociologie, c'était se mettre intellectuellement et culturellement en position d'infériorité. Gurvitch, donc, qui n'est pas parvenu à créer au sein de l'AIS un espace pour la sociologie francophone, décide lors du colloque de Royaumont en 1956, appelé les Entretiens de Royaumont, de fonder avec Henri Jeanne une association des sociologues de langue française, l'AISLF, en y associant les sociologues francophones, belges, canadiens et suisses notamment. L'AISLF sera officiellement créée en 1958 lors du premier congrès de Bruxelles et pouvait compter sur les sociologues des anciennes colonies françaises et belges devenues indépendantes, mais conservant et pratiquant le français dans leurs universités. Ainsi, malgré le périmètre scientifique et l'ambition internationale affichée, l'Association des sociologues de langue française se constitue essentiellement avec les sociologues des pays francophones. Pourtant, la sociologie francophone est loin encore d'exister. Si elle n'est encore qu'un mythe, l'AISLF sera l'instrument de sa construction et le lieu capable de lui donner une certaine visibilité, une certaine réalité. Mais le mythe d'une sociologie francophone peut paraître nécessaire, notamment pour s'opposer à la domination de la sociologie américaine. Car en effet, derrière la défense de la sociologie de langue française et le refus de la domination de la langue anglaise dans l'expression de la sociologie, c'est bien la sociologie américaine qui est contestée par les fondateurs dans ses caractéristiques et ses finalités propres. On sait que Gurvitch avait ramené de son exil aux États-Unis une allergie, nous dit Henri Jeanne, inguérissable à l'égard de la manière américaine de pratiquer la sociologie. Et on sait tous les adjectifs, tous les néologismes qu'il usait pour qualifier et fustiger la sociologie américaine. Francis Farrugia en a rassemblé quelques-uns, donc trop empirique, managérial, experte et mercenaire, non-pensante, cantophrène, testomaniaque, sociographique, coupée de la théorie, de la philosophie et de l'histoire, et donc insignifiante. Mais cette critique de la sociologie américaine et de sa domination au plan international, si elle est portée par le virulent Gurvitch, elle est aussi portée par les premiers membres de la ISLF, dont les Québécois, qui ressentent plus que les autres la menace qui pèse sur la langue française. On a notamment un témoignage de Guy Rocher, qui a été le premier secrétaire de la ISLF, qui indique bien que la crainte de l'hégémonie états-unienne était bien présente dans leurs conversations à Bruxelles. Il nous dit que la sociologie des États-Unis était solidement implantée dans toutes les grandes universités américaines. On y publiait déjà annuellement un bon nombre d'articles savants dans plusieurs revues de haute tenue. En comparaison, la sociologie d'expression française, française, belge, suisse, canadienne, ne faisait pas le poids. La ISLF serait alors, pour ses fondateurs, l'instrument de la résistance à la domination de la sociologie américaine. Pour cela, elle doit promouvoir la sociologie francophone en exerçant une influence sur la sociologie internationale. Il s'agissait alors de rivaliser avec l'AIS. Certes, les membres de l'AISLF sont bien moins nombreux que ceux de l'AIS. À sa fondation, en 1958, elle compte 251 membres, dont une forte majorité de Français, plus de 62%. contre 867 à l'AIS en 1959, selon les chiffres de Jennifer Platt. Mais ils exercent sur tous les continents grâce aux anciennes colonies françaises et belges. Si les quatre pays fondateurs, France, Belgique, Suisse et Canada, constituent le noyau dur de l'AISLF, le noyau francophone, sa représentation internationale s'étendra à 49 pays à la fin des années 70. Bien sûr, cette ouverture internationale ne peut faire occulter la domination française au sein de l'AISLF, que ce soit au niveau de la nationalité de ses membres. En 1970, 40% des adhérents sont français. En 1999, ils le sont à 45%. Mais aussi de ses officiels du bureau. La présidence est majoritairement française, comme le bureau, ou même les lieux des congrès. Entre 1958 et 2008, le congrès a eu lieu 8 fois sur 18 en France. Et les colloques et les congrès, justement, sont organisés à un rythme assez accéléré, notamment durant les premières années, entre 1958 et 1968, soit les 10 premières années d'existence de l'AISLF. 7 congrès seront organisés, permettant ainsi de donner une visibilité à la sociologie francophone. Cette fréquence et la requalification dans les années 80 des colloques en congrès ont permis à l'AISLF de rattraper en quelque sorte et même dépasser en nombre de congrès l'AIS, alors que les deux associations ont été créées à 10 ans d'intervalle. Le dernier congrès de l'AISLF a eu lieu cet été à Montréal, c'était le 20e, tandis que le prochain congrès de l'AIS se déroulera à Toronto en 2018 et ne sera que le 19e. Si l'AISLF concrétise, donne une certaine réalité à la sociologie francophone, cela ne conduit pas nécessairement à parler d'école. Pourtant, les critères classiques établis par Édouard Thiriakian pour déterminer une école s'appliquent assez bien à la sociologie francophone. Le premier critère stipule l'existence d'un leader intellectuel, charismatique, et là, les figures des deux fondateurs, Gurwitch et Jeanne, remplissent assez bien ce critère. En effet, le parcours et la personnalité des deux fondateurs de l'AISLF, Henri Jeanne était un ancien résistant, Gurwitch un ancien révolutionnaire russe, tous deux occupaient des positions institutionnelles importantes dans leur pays, et ainsi que leur œuvre respective en font des leaders reconnus. Le second critère, une base institutionnelle, est également fournie par la création même de l'AISLF. Le troisième critère fait appel à un corps de discipline et à une communauté de spécialistes, remplie ici par les membres de l'AISLF. En effet, l'AISLF, selon l'article 1er de ses statuts, regroupe des sociologues et d'autres spécialistes des sciences sociales donnant une orientation sociologique à leurs travaux, quelle que soit leur nationalité, à condition qu'ils utilisent le français pour une part notable dans leur activité scientifique. Le quatrième critère porte sur les lieux de publication pour diffuser les travaux de l'école. Là aussi, les conférences, des congrès et colloques sont à cette époque publiées soit dans une collection spécifique française, belge, suisse ou québécoise, soit dans la revue créée par Georges Gurwitch, les Cahiers internationaux de sociologie. Le cinquième critère évoque la nécessité d'interprètes et exégètes pour relayer la pensée du maître ou du chef d'école. Et là, on peut aussi relever plusieurs noms, Georges Balandier, Jean Cazeneuve, Jean Duvigneau, Yvonne Roux pour les principaux, mais plus largement les membres du bureau exécutif et en particulier les présidents successifs de l'AISLF. La pensée ou la ligne directrice étant la défense de la sociologie de langue française. On retrouve encore des documents d'archives, en particulier des présidents Ledru, Raymond Ledru et Édouard Thiriakian, qui viennent ainsi rappeler la spécificité de la sociologie de langue française. Le sixième critère concerne une nouvelle conception générale ou un programme de recherche scientifique exposé par le maître dans un ouvrage fondateur qui devient référence au groupe ou de l'école. Ce critère peut être rempli par les entretiens de Royaumont, en 1956, date et lieu où le projet de création de l'AISLF est décidé. Cette rencontre était consacrée à la crise de l'explication en sociologie et les résultats, certains des résultats, parce qu'Henri Jeanne n'y a pas publié, furent publiés dans les Cahiers internationaux de sociologie. Bref, tous les critères empruntés à Thiriakian semblent effectivement présents pour parler d'école de la sociologie francophone ou de langue française. Pourtant, ces critères, s'ils sont nécessaires, ne suffisent pas à qualifier à coup sûr un groupe, un cluster d'écoles. Peut-on en proposer quelques autres? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre autour de trois critères à partir de l'étude de l'AISLF. Ces critères ont été plus ou moins déjà abordés par les interventions hier. Tout d'abord, une école, comme l'avait rappelé Chéri à propos de la New School, est avant tout un lieu de formation et de transmission des connaissances. Et de ce point de vue, la formation à la sociologie francophone a constitué une certaine réalité, je pense en particulier pour les sociologues québécois. En effet, jusqu'en 1968, le doctorat de sociologie n'existait pas au Québec. Et les futurs sociologues se formaient soit aux États-Unis, soit en Europe francophone. En général, c'était en France ou en Belgique. De même, les colloques ou les congrès, les publications issues de la ISLF, comme issues des cahiers internationaux de sociologie, participent également à ce rôle de formation et de transmission d'une sociologie francophone. Par ailleurs, la ISLF, comme généralement toute école, met en place des procédures d'inclusion et d'exclusion. Et en effet, appartenir à une école ne se décrète pas isolément. Il faut tout d'abord être candidat et accepté à l'issue d'une procédure d'adhésion et d'inscription. Parler d'école, c'est donc à la fois inclure des membres autour d'un projet ou d'un programme et en exclure d'autres. L'adhésion, l'intégration dans un groupe peut passer par la formation auprès des pairs, par la cooptation et la sociabilité. Ainsi, bien que ça n'ait jamais figuré dans les statuts de la ISLF, la coutume voulait que tout sociologue soumette sa candidature au bureau exécutif en fournissant un CV et deux lettres de recommandation signées par des membres de la ISLF. Ce mode d'admission par cooptation et affinité sera abandonné en 2000 et faisait appel à une sociabilité antérieure et facilitait également l'intégration au sein de la ISLF. Ce système permettait en fait de vérifier l'usage du français dans les publications du candidat, préserver l'association de l'adhésion de membres non désirés pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons politiques. Ainsi, il est arrivé, par exemple, que le bureau exécutif demande à Alain Touraine son avis et son expertise concernant la probité intellectuelle et politique d'un sociologue polonais au moment des événements de Solidarnosc au début des années 80. Ainsi, cette dimension sectaire est bien inscrite dans la notion d'une école. Et en effet, le terme d'école peut être aussi un qualificatif disqualifiant. On a beaucoup évoqué aussi hier l'article de Jean-Louis Fabiani, dans lequel il avait d'ailleurs rappelé, à la suite d'Abbott, que l'étiquette d'école de Chicago avait été donnée la première fois dans un article de 1930, dans un sens injurieux, pour critiquer ce groupement de sociologues et leur sectarisme, notamment n'ayant pas recruté l'auteur de cet article. Une école serait donc tout à la fois un collectif, incluant et excluant, un label et un stigmate, ce qui a été également dit hier. Enfin, le troisième et dernier critère que je voudrais évoquer, c'est celui d'influence, qui a été en partie abordé par Antoine Savoie dans une de ses remarques ou interventions. En effet, une école peut désigner un nom, un lieu géographique, un lieu institutionnel, mais aussi un courant. Et c'est surtout une manière de signifier que ce nom, ce lieu, ce courant exerce une influence. Il reste très vraisemblable que pour les fondateurs de la ISLF, ils aient voulu, en fondant la ISLF, produire une tradition intellectuelle qui puisse être une alternative à la sociologie américaine, devenue hégémonique dans un contexte marqué par la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, l'hégémonie de la sociologie américaine est indéniable, mais la sociologie francophone résiste encore et exerce une certaine influence sur la scène internationale, en grande partie grâce à l'ISLF. Ainsi, pour terminer, parler d'école dans le domaine des sciences sociales semble bien périlleux et ne peut se faire la plupart des cas qu'a posteriori, voire quand elle n'existe plus. Là, j'écarte effectivement les exemples qui ont été abordés où le terme d'école est une notion indigène, où là, c'est vrai que c'est plus évident ou plus intéressant de regarder comment on travaille autour de cette étiquette d'école. Donc là, je parle plutôt de groupement où la notion n'est pas indigène. Et donc, il est souvent plus aisé de parler de collectif intellectuel, de projet théorique ou paradigmatique que d'école, dont les indicateurs ou les conditions sont rarement entièrement réunis. D'ailleurs, le terme d'école est plus souvent une reconstruction, donc a posteriori, qui peut être très longue ou très tardive, à l'instar du processus d'héroïsation Durkheim, dont l'image aujourd'hui est bien différente de celle qui avait cours durant les Trente Glorieuses. Et on l'a vu à propos de l'école de Chicago, une reconstruction réalisée par d'autres, héritiers, concurrents, opposants, et mobilisée dans une stratégie soit d'inscription dans une tradition recréée, c'était l'exemple que donnait Christian Topalov à propos de l'école de Chicago, soit de rejet d'une tradition dépassée, obsolète, c'était un peu l'image qu'on donnait dans les années 50 de l'école durkheimienne, pour mettre en avant une nouvelle tradition. Bien souvent aussi, je pense que l'objectif ou la stratégie que retient l'historiographie échappe aux fondateurs. Donc pour terminer, même si avec la ISLF, la sociologie de langue française, même réduite à la sociologie francophone, a pu exercer et exerce encore une certaine influence au sein de la sociologie internationale, ce qui lui a manqué pour en faire une école, c'est sans doute une unité paradigmatique. La conviction, aussi forte, aussi profonde soit-elle, que la langue française est un outil d'explication et d'élucidation particulièrement adapté pour l'analyse des relations sociales, ne suffit pas à donner une unité paradigmatique à la sociologie francophone. Et surtout, je pense que cette conviction n'est aujourd'hui sans doute plus partagée par les membres de la ISLF. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cet exposé. Donc on va prendre quelques questions, on va passer à la communication suivante. Oui, Jean-Christophe, il y a un micro là. Oui, vas-y, attends, il y a David qui apporte le micro. Ensuite, il y aura Chéri.
Justement, à propos de l'unité paradigmatique qui n'existe pas, j'aimerais plus savoir si tu as les moyens, si tu as des éléments pour montrer en quoi éventuellement l'ANSLF a été ou n'a pas vraiment été un tremplin que la sociologie théorique puisse se répandre, si je veux dire, même dans les pays francophones qui étaient liés à l'ANSLF, si tu as des éléments là-dessus.
Oui. Des éléments, faudrait que je réfléchisse un peu plus. Moi, je reste persuadée que c'était un de ses souhaits, qu'il puisse mieux diffuser, en fait. Bon, on sait qu'il avait l'ambition hein, de constituer un courant dominant et de représenter la sociologie française. Après, voilà, je n'ai pas vraiment d'éléments pour voir s'il avait mis en place des stratégies particulières de publication, de réseau en dehors de la ISLF. Hier, on a évoqué la question de la volonté pour faire école. Si on regarde dans le contexte de la sociologie française, très certainement, il y avait une volonté pour constituer de sa part hein, une sorte d'école en France. Après, est-ce que l'ISLF pouvait être un outil supplémentaire, ce n'était pas le seul, hein, pour consolider ou constituer cette école gurvitchienne. Mais je n'en ai pas d'éléments précis, intangibles, des faits pour répondre.
Chéri, tu passes derrière, s'il te plaît.
Ma question, c'était un peu la question de la temporalité, parce que ce que tu décris au début, c'est quelque chose d'assez homogène, où il y avait un nombre réduit et répérable de personnes qui pouvaient défendre, peut-être pas la même sociologie, mais la même visée. Et puis, à un moment, on voit ce que c'est maintenant avec... On ne peut même pas imaginer quelles sont toutes les sessions sans y assister. Donc, je me demandais s'il y avait un moment où ça a été et ça n'a plus été et que l'institution... Ou si c'est quelque chose à nouveau, comme on voit avec la MUSCO, qui se transforme à travers le temps et puis à un moment, ce n'est plus ce que ça a été, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je me demandais ça, la question de la temporalité et le changement de...
Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé quand tu as fait ta présentation sur la New School, j'ai beaucoup pensé par rapport à la ISLF, au moment où le l'objectif initial qui va fonder l'institution est mise non plus en priorité, mais au second plan. Alors, les dernières traces où on voit encore affirmer la défense de la spécificité de la sociologie de langue française viennent du président Thiriakian. Donc, on est, on va dire... Alors, je ne peux pas dire qu'après, ça n'existe plus. Il peut y avoir... voilà, ça peut dépendre aussi des sources qu'on peut trouver ou pas. Mais les dernières sources que j'ai retrouvées, qui sont systématiquement des documents... j'ai parlé de Raymond Ledru aussi, donc dans les années 70-80. Donc, ce sont des documents officiels envoyés soit des collègues, soit des institutions officielles. La dernière, celle d'Edouard Thiriakian, s'est envoyée au commissaire européen qui était à l'époque Jacques Delors, par exemple. Et donc, on sent dans l'argumentation cette défense de la spécificité de la langue française. Et c'est vrai que peut-être aujourd'hui, alors je ne peux pas dire que le contexte, que ça s'explique par un contexte, mais c'est vrai que lorsque les pays de l'Est, en fait, vont, comment dire, soit rejoindre l'AISLF, soit rejoindre l'AIS, je ne sais pas s'il y a une vraie concurrence, mais en tout cas, l'AISLF s'ouvre davantage aux pays de l'Est, et peut-être que cette question de la langue française devient un peu moins prioritaire. Hein. Donc, comme tu l'avais dit, il y a d'autres enjeux qui dépassent l'ambition ou ce qui crée l'unité, comme tu dis, des fondateurs. Mais on a la chance d'avoir une ancienne présidente de l'AISLF parmi nous. Peut-être qu'elle aura l'occasion de peut-être nous répondre sur ça. Justement, c'est une chance.
La communication de ce jour consiste à rendre compte d'une enquête en cours avec Manuel qui vise à essayer d'expliquer le développement d'une sociologie. Alors on va réfléchir sur comment la qualifier. Une sociologie qui est, disons, menée par un leader charismatique dont on va parler, Michel Maffezoli. Donc est-ce que c'est une école ? On va essayer de traiter la question. On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, si le PowerPoint s'affiche, vous verrez un certain nombre de schémas développés par Manuel qui essaie d'entrer dans le fond cognitif de cette sociologie, de sa proposition intellectuelle. Après quoi, voilà, magnifique. Après quoi, j'essaierai de réfléchir sur d'autres dimensions, plutôt la dimension de l'usage de la notion d'école parmi les Maffesoliens. Je sors une catégorie. Et on réfléchira aussi sur la dialectique du maître et des disciples pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est une enquête en cours. C'est bon, tu peux. Ouais, okay, super. Qui est même en voie d'achèvement, on peut le dire, et dont on livre en fait les premiers résultats à votre sagacité critique. T'asseoir si tu veux, non ? Et on s'est planté sur le titre, d'ailleurs. Ça aurait été plutôt rude de l'école de médecine, mais je voulais faire un jeu de mots, j'ai complètement raté. Enfin, c'est terrible. Donc c'est un peu déceptif comme titre. Mais, rue des Saint-Père, enfin, bon, bref. On va en parler. Ouais.
Je vais rester debout parce que j'aurais besoin de vous montrer pas là, mon pointeur, donc j'aurais besoin de vous montrer des choses précises sur les tableaux.
Il faut que tu parles avec le micro par contre.
Ah, ouais. Ah. Donc l'objectif de cette communication est très simple en fait, c'est de se poser la question, est-ce que le collectif de chercheurs mené sous la direction de Michel Maffesoli, donc je pars du principe là que tout le monde situe plus ou moins Michel Maffesoli, il y a des historiens parmi vous, passons. Michel Maffesoli, donc sociologue né en 1944, et dans quelle mesure le collectif de chercheurs fédéré autour de lui à partir des années 80 peut être considéré comme une école de pensée? Pour répondre à cette question, bien sûr, on va se poser d'abord une question préalable qui est de savoir qu'est-ce qu'une école de pensée. Et on va faire un état de l'art assez rapide sur la question. Dans un deuxième temps, on verra que ce collectif peut être appréhendé d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue institutionnel. Enfin, on reviendra dans la dernière partie, on confrontera nos analyses à la critériologie qu'on aura posée au début. Très très rapidement, c'est une enquête qui est en cours, qui a commencé par un pastiche dont vous avez peut-être entendu parler, publié dans la revue de Michel Maffesoli Société, un pastiche qui reproduisait donc le style maffesolien, qui a été publié, et c'en est devenu un canular, puisqu'on a, un mois plus tard, on a expliqué pourquoi est-ce qu'on avait fait ce pastiche, et comment on l'avait fait surtout. Et enfin, on a un ouvrage en préparation, qui élargit largement le propos, à la fois du pastiche évidemment, et de l'explication qui a succédé au pastiche, qui est une enquête de sociologie de la connaissance sur le mouvement maffesolien intégré dans la discipline, donc une histoire de la discipline dans les années, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une école de pensée? Je vais y aller assez vite. En ce qui concerne des études de synthèse, on en a parlé là beaucoup, notamment celle de Thierry Akian, qui est très précise. L'article de Collins publié dans Enquête, qui ne parle pas explicitement d'école de pensée, mais de tradition, et qui sera pour nous important. Sur les études de cas, différentes écoles, l'école durkheimienne avec les travaux de Philippe Bénard, de Victor Caradi, de Johann Heilbronn. Sur l'école de Chicago, la monographie classique de Bulmer, celle de Abbott, un article de Romain Pudal qui est très intéressant. Sur l'école de Francfort, l'ouvrage classique de Vigarhaus, un ouvrage plus récent de Durand-Gasselin. Par ailleurs, des travaux d'Alban Bouvier qui me semblent très stimulants sur qui associe des études de cas d'école avec des réflexions en épistémologie sociale. Une étude notamment sur l'école de Copenhague en 2002 en physique théorique. Et en 2007, une étude sur l'école autrichienne d'économie. Ça rejoint l'article de Negrou sur l'école autrichienne. Par ailleurs, des références classiques en sociologie des sciences, sur la Price, Crane, sur les collèges invisibles. Ensuite, la monographie classique de Clark, The Prophets and Patrons, sur la vie intellectuelle française. Et des références en épistémologie sociale et en épistémologie. Berthelot, Bouvier, donc là, il est dans les deux tableaux, voilà, les deux critères à la fois. Et en sociologie générale, les travaux de Mullins sur les théories des groupes. Donc, petite synthèse liée à tout ça, on a repéré des critères qui nous semblaient nécessaires dans la définition d'une école de pensée. L'existence d'un leader charismatique, notamment, habité par la foi en un nouveau programme de recherche. Donc ça, c'est très, très fréquent dans la littérature qu'on a consultée. Ce leader charismatique dispose par ailleurs de capacités organisationnelles manifestes. C'est quelqu'un qui est capable d'animer une vie scientifique. En bleu, ce sont des critères qui sont plus liés à des études de cas, donc on pourrait les considérer comme facultatifs. Ce leader ou patron est titulaire d'une chaire, en général centrale, ça c'est l'étude de Clark. On peut noter l'existence d'un petit cercle avec une forte sociabilité de ses membres. Donc là, on a des exemples et on a aussi des contre-exemples. Le patron influencerait, là, toujours en référence à Clark, la carrière des autres membres. Et Thierry Kahn, je ne sais pas si on dit Thierry Akan ou Thierry Kahn, fait un certain nombre de distinctions qui concernent la morphologie de ce qui serait une école. Il distingue des lieutenants, qui seraient en fait des étudiants proches du leader et qui auraient en charge de diffuser sa vision du monde après sa disparition. En dessous de ça, il y aurait des petits soldats qui participeraient à la diffusion aussi, mais sans apporter de plus-value sur le plan conceptuel. Et enfin, je m'arrête, il y avait d'autres catégories chez Thierry Akan, l'idée de mécène, passons. Et un autre élément qui nous semble important, c'est l'idée de collège invisible, qu'on trouve bien entendu en sociologie des sciences, chez Diana Craig notamment. Donc ça, c'était toute la dimension morphologique et interactionnelle au sein de ce qu'on pourrait appeler une école de pensée. Je parle au conditionnel parce que on a vu que c'était une catégorie sans cesse remodelée. Deuxième dimension, sur le plan théorique et cognitif. Donc une école de pensée, il y a des pensées, donc on ne peut pas faire l'impasse sur la dimension cognitive. Le point fondamental, c'est l'existence d'une, là il y a plusieurs termes, l'existence d'une connaissance spécifique, tacite, plus ou moins tacite, d'un programme de recherche, après avoir, les mots sont très variables, d'une vision du monde éventuellement. On verra ça dans le détail après. Deuxième point, cette forme d'orthodoxie conceptuelle affichée, reste à voir si elle est vraiment partagée au cas par cas chez les individus, se distingue ou s'oppose à une autre orthodoxie. On s'oppose et donc on crée une nouvelle école. Il y a fréquemment l'existence d'un manifeste qui incarne ce nouveau programme de recherche, de façon un manifeste très souvent anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit. Les écoles de pensée proposent de manière générale une définition assez large et lâche de l'activité de recherche, de manière à ce que le programme posé initialement puisse être développé par un ensemble de contributeurs, sans quoi il n'y aurait pas école, il n'y aurait pas travail collectif. Enfin, une école de pensée vise, il me semble que c'est un critère important, à modifier la définition des objets, des concepts clés et des méthodes d'analyse légitimes au sein de la discipline. Et donc, l'école de pensée constitue un facteur de changement dans le champ scientifique. Enfin, sur le plan de la diffusion de la recherche, il est difficile de parler d'école de pensée sans impliquer en même temps une revue, un organe de diffusion, une revue, une collection, etc. Sur le plan institutionnel, l'école de pensée, donc c'est une pensée et c'est forcément une institution. Parmi les critères importants, il y a l'existence d'un cadre institutionnel stable dans lequel va s'inscrire l'école de pensée. Et l'existence, deuxième point, ça c'est Collins qui en parle, d'un moment de transition dans la constitution d'un champ de recherche, c'est-à-dire que l'école arriverait dans un creux cognitif où il y a une confusion entre différents programmes, et l'école, là, va se positionner. Et troisième point, développé par Mirkridge en 1977, l'autorité scientifique du leader doit être globalement reconnue par ses pairs dans le monde académique. Donc on verra qu'il y a un certain nombre de contre-exemples. Par ailleurs, on en a beaucoup parlé hier, on doit se poser la question du label école. Est-ce que c'est un label émique, produit par les acteurs, ou est-ce que c'est un label éthique? Et comment ce label est utilisé par les acteurs. Donc, maintenant, application sur le collectif maffesolien. Du point de vue conceptuel, donc je vais parler de ça, on parlera de la dimension institutionnelle. Pour appréhender ce point de vue conceptuel, on va parler de style de pensée. Donc, c'est une notion assez polysémique en sociologie de la connaissance. On va la définir en fonction de quelques critères. Disons que l'intérêt de cette notion de style, c'est qu'elle intègre la question du langage, la question de la méthode, la question de l'épistémologie et la question d'une éventuelle vision du monde. En ce qui concerne le corpus strictement maffesolien, c'est-à-dire lié à la personne Maffesoli, on se base sur l'ensemble des publications de Michel Maffesoli et sur un ensemble d'entretiens faits, des consultations d'archives et des entretiens faits, on en a une soixantaine, avec des proches de Maffesoli, d'anciens collègues de Maffesoli. En ce qui concerne cette fois le corpus du collectif maffesolien, qu'on verra dans un second temps, pour le comparer avec le corpus maffesolien stricto sensu, c'est l'analyse de l'ensemble des revues associées à la personne de Michel Maffesoli, la revue Société, la revue Cahiers de l'Imaginaire et aujourd'hui les Cahiers européens de l'Imaginaire. C'est aussi l'analyse des thèses dirigées par Maffesoli et l'analyse des publications des anciens doctorants de Michel Maffesoli. Alors le style, on peut le définir par un premier caractère qui est le lexique. Quels sont les termes fondamentaux utilisés par Michel Maffesoli? Comment est-ce qu'il emploie comme terme pour rendre compte du social? On voit que ces termes, en fait, sont très fréquemment, sont pas inférés d'une enquête particulière, mais sont déduits. C'est-à-dire que ce sont des termes qui sont posés a priori. Donc, parmi ces termes, il y a les entités qui servent à expliquer le social. Donc, ce sera par exemple le retour de Dionysos ou l'archétype dionysiaque ou, je ne sais encore, la nappe phréatique. Et on a par ailleurs des termes qui sont liés à ce qu'il faut expliquer, l'explanandum. Donc ces termes, ce sont des entités qui sont souvent liées à des activités qui correspondent à ces intérêts de recherche, c'est-à-dire des entités qui témoignent d'une agrégation d'individus. Donc ce sera l'IJMJ, par exemple, tel concert de rock, etc., etc. Ce qui est intéressant lorsqu'on analyse le lexique de Michel Maffesoli, c'est qu'il est organisé de façon binaire, pour ne pas dire manichéenne. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'oppositions binaires. On a la société moderne qui aurait certaines propriétés, qui serait définie par un certain nombre de choses, et qui serait opposée à la société postmoderne. Donc d'un côté modernité, d'autre côté postmodernité, et toute une série de dualismes comme ça liés à deux moments historiques. Donc, je passe rapidement. Vous avez encore des exemples, là c'est des choses tirées, directement tirées des écrits de Maffesoli. Vous avez une infinité comme ça d'oppositions binaires, et on voit à chaque fois que dans le premier membre de l'opposition, ça correspond à la période dite moderne dans la vision du monde de Maffesoli, et c'est en général déprécié par lui, et c'est opposé à la période postmoderne qui, elle, est louée. Sur le plan, lexique et rhétorique, termes fondamentaux et comment ces termes sont agencés les uns avec les autres. Troisième point, l'épistémologie. Là, je pense que les travaux de Jean-Michel Berthelot sont très utiles. La façon dont Michel Maffesoli met en rapport ces termes, relèvent de ce que Berthelot appelle le schéma herméneutique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système de pratique ou de signification à expliquer, l'explanandum, c'est le X, et cet explanandum est considéré comme un signifiant, si on se reporte à la distinction saussurienne entre signifié et signifiant, un signifiant d'un signifié qui serait caché, latent, et qui expliquerait donc cette manifestation sociale. Je prends un exemple, les JMJ ou le Grève Party, ce serait à expliquer, ce serait le X, le fait sociologique à expliquer, serait à expliquer donc en fonction d'un archétype dionysiaque, agrégatif, festif, etc. Dernier point, comment lier, on a vu qu'il y avait une axiologie dans la rhétorique, et comment lier l'ontologie et l'axiologie. Et là, il me semble que l'anthropologie de la connaissance proposée par Viktor Stoichkovski nous offre un cadre analytique tout à fait heuristique pour comprendre comment tout ça s'organise. Dans la mesure où l'ontologie de Maffesoli, qui est liée au lexique, est essentiellement déduite et non pas induite d'un terrain, on peut considérer que cette ontologie, ces termes de Dionysos, d'apréatique, etc., correspond à des axiomes. Et la question maintenant est de savoir comment ces axiomes s'articulent les uns avec les autres dans une vision du monde cohérente, et comment cette vision du monde est marquée par un ensemble d'engagements axiologiques. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc, l'idée est très simple, c'est que vous prenez une feuille de papier, vous lisez un livre de Maffesoli, et vous notez par exemple toutes les professions de foi qui correspondent à ce qui serait la nature de l'homme, ou la nature de la société, ou la nature de la nature au sens large du terme. Vous notez tout ça, et vous notez ensuite, sur une autre feuille de papier, toutes les professions de foi qui correspondent à ce qui est le bien et à ce qui est le mal. Et normalement, vous devriez arriver à un tableau qui ressemble à ça, où on a des engagements ontologiques sur ce qui définit la nature de l'homme. Pour Maffesoli, donc là c'est la première case à gauche, l'homme dans son essence est un homo eroticus, c'est pour reprendre le nom d'un de ses ouvrages. Il est animé par un vouloir vivre irrépressible, une force vitale archétypale, par une forme de violence fondatrice, pour reprendre un vieil ouvrage de Maffesoli, par un désir de fusion avec ses congénères, donc sous la forme de tribu. Cet homo eroticus vit dans l'instant, il n'a pas d'identité fixe, c'est juste une succession d'identifications. Et ce désir archétypal, dans la vision du monde de Maffesoli, tend à se capillariser, pour employer ces termes, dans toute activité sociale. Donc ça, c'est son anthropologie métaphysique. Qu'est-ce que l'homme, fondamentalement, pour Maffesoli? On a par ailleurs une métaphysique sociale qui correspond donc à la nature de la société. Pour Maffesoli, la société alternance de périodes historiques où les institutions sont en phase avec la nature dionysiaque de l'homme. Et ces phases durent, selon lui, 3-4 siècles. Voilà. Et maintenant, comment s'intègre la question de l'axiologie, la question du bien et du mal? Si on lit attentivement Maffetoni, on se rend compte que l'homme, dans la période moderne, va être dénaturé. Il va perdre ses propriétés essentielles. Donc, il va perdre ses propriétés dionysiaques, festives, agrégatives, présentéistes. Et ça, pour Maffetoni, c'est le mal, d'une certaine manière, puisque si on l'applique maintenant à sa métaphysique sociale, l'impossibilité pour l'homme d'exorciser ce qu'il appelle sa part du diable, sa part maudite en référence à Bataille, de capillariser ça dans le corps social de façon, disons, naturelle, ça va démultiplier sa violence fondatrice et ça va aboutir aux grandes catastrophes du XXe siècle, dont la Shoah. Il le dit texto, vous avez des dizaines d'occurrences, la Shoah, le nazisme, les camps de concentration, c'est le résultat de l'impossibilité pour l'homme d'exprimer sa nature profonde. Mais heureusement, tout n'est pas perdu, puisque Michel Mavezoli est un grand optimiste, et la postmodernité correspond pour lui à au retour de la nature chez l'homme et chez la société. La postmodernité correspond à la période civilisationnelle, pardon, où l'homme va retrouver ses propriétés essentielles. Et pareil pour la société, la postmodernité correspond au moment où la société va redevenir tribalesque, où la violence va pouvoir se capillariser dans l'ensemble du corps social, et où les grandes catastrophes qui ont marqué le XXe siècle, vont être évités. Voilà, donc je passe très rapidement. Si on consulte maintenant le collectif, le corpus maffesolien, associé donc au collectif maffesolien, on retrouve de manière relativement fréquente les entités qu'utilise Michel Maffesoli, l'explanance, ce qui sert à expliquer, l'explanandum, ce qu'il faut expliquer, les nouveaux modes de sociabilité, etc. On retrouve de manière quasi systématique le schéma herméneutique qu'emploie Maffesoli, c'est-à-dire ce rapport signifié-signifiant. On retrouve donc de manière récurrente ce que Michel Berthelot pourrait appeler un programme de recherche, c'est-à-dire le fait d'associer un schème explicatif à certaines entités électives. Par contre, on retrouve que très très rarement la cosmologie telle que je l'ai présentée juste avant, la vision générale de l'homme et du monde de Michel Maffesoli, qui est pourtant le cadre ontologique et axiologique, préside à son programme de recherche, duquel va dériver le programme de recherche. Donc, pour conclure sur la comparaison entre le style maffesolien stricto sensu et le style du collectif maffesolien, qu'on retrouve dans les revues, les thèses, etc., défendues par le doctorant Michel Maffesoli, on peut éventuellement parler d'école de pensée maffesolienne si on reste focalisé sur le programme de recherche, le schéma herméneutique. Par contre, si on s'intéresse à la cosmologie de Michel Maffesoli, on retrouve que très très rarement des reproductions de cette cosmologie. Donc, là, il me semble qu'on ne peut absolument pas parler d'école de recherche dans ce sens-là.
Ok, donc là je passe très rapidement à la partie sur la réflexion sur la dimension institutionnelle. Je vais d'abord évoquer la pragmatique de l'usage du label d'école, la façon dont il est endogénéisé dans ce milieu. Alors les occurrences, en l'occurrence, sont très rares de la notion d'école. Et lorsqu'une référence est faite, le groupe est immédiatement référé à son leader charismatique. On parle d'école maffesolienne. Alors, je vais prendre un exemple tiré d'un ouvrage d'éloge, qui est donc propice à l'expression de la force des liens forts, dans lequel Martine Xiberas, qui a fait sa thèse avec Maffesoli, décrit ainsi le groupe dont elle se sent solidaire. Alors, je cite, « La méthode de travail de Maffesoli innerve de nouvelles façons de travailler, plus collectives, entre guillemets, renouant à la fois avec l'esprit collectif, souligné, qui règne au sein de ses groupes de recherche, au CEAC, donc le laboratoire qu'il a fondé, en 82 avec Georges Balandier, ou l'esprit d'école maffesolienne, entre guillemets, ainsi que nous appellent et nous perçoivent les autres groupes de sociologie, autres, entre guillemets. La réflexion de Maffesoli, je continue la citation, s'étend jusqu'aux confins de l'esprit de réseau qui permet la rencontre et la fraternisation, pas toujours évidente, avec d'autres, et même l'esprit de clan, depuis l'attaque et la persécution par les autres tendances. Notre école s'attaque ainsi aux vraies difficultés de la société contemporaine avec de vraies armes spirituelles, que Manuel a résumées. Il n'y a pas d'objet tabou, ni d'objet culte, et ça pourrait continuer encore. Alors tout est là, collectif, école, réseau, clan, mais aussi la solidarité contre l'adversité et l'héroïsation du clan, qui se frotte courageusement à la postmodernité par la force armée de l'esprit. Alors ce n'est pas l'école, avec les guillemets, qui unifie et donne son sens à l'activité du groupe, c'est bien plutôt l'esprit. Alors un esprit qui s'oppose au reste de la sociologie dominante, posé a priori comme relevant de l'orthodoxie. Alors, école par défaut, marquée par l'engagement conjoint de ses membres à faire front commun contre cette présumée orthodoxie sociologique qui est érigée en épouvantail dans les écrits du groupe. Mais quel esprit, en fait? Alors, si l'on suit l'auteur, l'auteureux, il s'incarne dans la personne et la vision du monde de Michel Maffezoli. Il est l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il importe de tenir compte du socle cosmologique qu'a résumé avec ces tableaux magnifiques Manuel tout à l'heure. Cet esprit est en outre malin et décepteur, puisque Martin Xiberas dépeint son maître en trickster, c'est-à-dire en divin fripon qui se joue du monde, au bonheur de ses adeptes qui s'efforcent de l'imiter. Alors, là on voit se structurer une école maffezolienne, je mets les guillemets puisque les acteurs mettent les guillemets, qui est faite de reliance et de fidélité à la parole du maître, une école parmi d'autres, dans le pluralisme qui caractérisait la sociologie à l'époque encore. Dans les sociologues qui ne sont pas de cette école usent rarement du label d'école pour qualifier les maffezoliens. C'est en général avec ironie et un peu de moquerie, il faut bien le dire, qu'ils évoquent la tribu, ou, c'est presque synonyme, la secte inspirée par un célèbre gourou parisien, pour reprendre les termes de Claude Javot, dans un ouvrage récent. Dans un épais volume intitulé « Quête du Graal, postmoderne et temps des tribus », Jean-Marc Delpercio-Vergniaud, un ouvrage paru l'année dernière, propose de dévoiler les sources intellectuelles de ce qu'il appelle, avec la majuscule, l'école de Grenoble. Celle-ci est en quelque sorte la concrétion d'une même inspiration, celle de Gilbert Durand et de Michel Maffezoli, rassemblés donc dans un même collectif. Le sous-titre « Une nouvelle révolution conservatrice » laisse deviner l'intention critique qui anime l'analyse de l'auteur. C'est un bouquin de 600 pages qui fait vraiment la généalogie de cette pensée. Mais sans entrer dans le détail de cette histoire qui est purement intellectuelle, donc basée seulement sur des textes, ça présente un coût quand même assez énorme, puisque ça homogénéise de façon outrancière la matrice intellectuelle supposée faire tenir tout ce monde ensemble, que l'enquête que nous faisons au ras du sol en faisant des entretiens fait vaciller. Donc école pour soi et surtout par défaut dans l'antagonisme, école de l'entre-soi et aussi du chacun pour soi dans le contexte d'éclatement pluraliste des années 80-90, le collectif, école, réseau, clan, maffezolien, pour ne pas parler d'une mouvance, d'un courant, d'une sensibilité, peut-être d'un style, j'ai pas dit secte, résiste à l'application d'une catégorie de classement et de regroupement univoque. Inférer l'existence d'une école produit des effets variables, on les a évoqués hier, de légitimation, éventuellement, depuis la Dionysie, la maffezolie, comme on l'a qualifié, soit d'ostratisation, depuis les groupes non inféodés à ce groupe. Mais c'est aussi tracer, ce faisant, des frontières entre ce qui relève de la bonne sociologie et de la pseudo-sociologie, travail de démarcation qui est à vif pendant les moments de controverse, affaire Tessier et d'autres plus récents. J'en viens à un deuxième point, sur les stratégies de normalisation et de légitimation d'une offre intellectuelle, à la fois banale et marginale, en particulier dans les années 80, c'est-à-dire avant le discrédit. Alors, rien ne se passe ici qui ne soit ostentatoirement sociologique et universitaire. Les gages donnés à l'institution théâtralisent un conformisme de bon aloi. De la même façon que Michel Maffezoli enfile le costume de l'homo academicus, les créations institutionnelles mettent en forme, en stricte application des normes de bienséance, les plus manifestement légitimes de l'université. Alors, le travail a consisté pour le sociologue, ainsi que les nombreux collègues qui l'aidèrent dans son entreprise académique, à mettre en cohérence dans le temps, vite en l'occurrence, et l'espace, 25 mètres carrés du CEAC, les différents outils indispensables à quiconque veut influer ou laisser une trace dans une discipline, des normes qui s'imposent hein, d'une certaine façon. Alors parmi ces outils, là, on les évoque très très rapidement, mais il y a des chapitres à chaque fois qui sont consacrés à ces entités dans le bouquin. Donc il y a l'histoire du CEAC, évidemment, créé en 1982, donc le Centre d'études de l'actuel et du quotidien, avec l'appui de Georges Ballandier, qui a vite déserté la chose. Ensuite, la revue Société, on a consacré tout un chapitre à son histoire, donc créée en 1984 chez Masson, ou la collection Sociologie du quotidien, qui a joué un rôle assez important dans les années 80 pour diffuser un certain nombre d'auteurs, mais aussi des colloques, très courus à l'époque, les colloques Sociologie 1, 2, 3, 4, Sociologie au pluriel, et différents événements à Paris 5, des invitations aussi en France et à l'étranger, beaucoup de circulation, notamment au Brésil, et aussi l'amphithéâtre Durkheim, en Sorbonne, où les jeunes se pressent pour écouter le théoricien sulfuré de l'orgiasme et du réenchantement du monde, décrit en 83 dans les pages du Monde comme, je cite, « un provocateur, un séducteur, affichant avec une touche d'exhibitionnisme un dandysme intellectuel volontiers éclectique ». Alors cela fonctionne au début des années 80 parce qu'il se trouve que Michel Maffezoli et les siens sont à la bonne place et au bon moment. Mais pas n'importe où. Les places fortes sont prises à l'École des hautes études ou au Collège de France, après que les brèches ouvertes au cours des années 70 se sont refermées, si bien qu'il est plus rentable d'investir à Paris 5. Cette Sorbonne-là, enfin cette marque Sorbonne, hein, positionne le professeur de sociologie en situation de maximiser diverses opportunités. On pourrait en dire plus, on n'a pas le temps. Certes, Maffesoli y met les formes et fait montre d'une bonne volonté universitaire, mais il ne tarde pas à susciter la crispation de ses collègues. Les critiques de ses essais s'accumulent au fur et à mesure des années 80. La mauvaise réputation et les rumeurs ajoutent à la suspicion. À partir de La connaissance ordinaire, parue en 85, et de façon toujours plus injurieuse après l'affaire Tessier, Michel Maffesoli se lance dans la critique sociale de la sociologie comme profession. La sociologie, n'a-t-il de cesse d'écrire, est parasitée par des meutes de pseudo-chercheurs et d'ignorants, de bureaucrates et de notaires du savoir, de curés et d'arrivistes. C'est le rapport singulier de Michel Maffesoli, alias M. le Maudit, pour reprendre ses termes, à l'institution universitaire et à son conformisme, qu'il est bon d'interroger ici. Dans une interview qu'il a accordée à un collègue juste après l'affaire Tessier, une interview exclusive, Michel Maffesoli résume la stratégie qui a été la sienne durant sa carrière, notamment au début à Paris 5. Il lui dit « Jusqu'à ma génération et pendant un moment encore, il était possible de nicher la tactique du coucou. On met ses œufs dans le nid, fait par un autre. Et donc là, en la matière, c'était sans problème aucun que j'ai pu faire cela. » Fin de citation. Après, vous pourrez mettre des noms. Il n'est qu'à relire La conquête du présent, Le temps des tribus, ou plus encore un article fameux paru en 83 dans les cahiers internationaux de sociologie sur la mafia en tant que métaphore de la socialité de base et modèle d'organisation pour repérer les linéaments d'un programme d'action qui était sous-jacent à cette sociologie. J'en viens à la fin, c'est-à-dire la fabrique de disciples loyalistes, pour reprendre la notion de Randall Collins sur les traditions loyalistes. Au cœur du modèle d'entrepreneuriat académique de Michel Maffesoli se trouve la structure traditionnelle maître-disciple. Alors, lors des entretiens que nous avons menés avec des proches ou des anciens élèves, qui marquent la distance aujourd'hui, les mots fascination et séduction reviennent de façon lancinante dans leur bouche pour expliquer après coup l'attrait et la force de conversion de cette sociologie. La fascination tient autant à la nouveauté et à l'originalité apparente de cette pensée hétérodoxe qu'à la personnalité charismatique du professeur qui la prône. Ses essais prophétiques et quasi divinatoires proposent un diagnostic, il suggère aussi une éthique, ce que disait Emmanuel, une forme préférable d'action et même une forme de salut, on parle de sotériologie. Il procure aux lecteurs qui pensent les avoir compris la sensation jubilatoire et presque irrationnelle d'un basculement d'époque. Quelque chose qu'on ressent. Un finesse des vocations et des allégeances loyalistes, plus ou moins durables, sur la base d'un acte de foi. Ce modèle de compagnonnage initiatique n'est certes pas neuf, mais Michel Maffesoli, qui se réclame en permanence de ses maîtres, Julien Freund, Gilbert Durand, lui donne un lustre un peu désuet qui semblait avoir perdu la discipline sociologique. Alors, le degré d'adhésion et le rapport subjectif au maître sont très variables parmi les élèves. Alors, je vais étendre une typologie que Stéphane Empart-Zoumian, qui a fait une thèse avec Michel Maffesoli, on a presque conclu. Hein. Je vais reprendre ces catégories. Donc, il distingue les Maffesoliens, qui travaillent dans le prolongement du paradigme de la sociologie d'imaginaire, et les Maffesolistes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les zélateurs sectaires. La première catégorie est composée d'élèves conquis par tel ou tel élément de la sociologie maffesolienne, mais qui travaillent de façon isolée, bricolant avec les auteurs qui forment le panthéon référentiel de société. Ça peut être Edgar Morin, ça peut être Jean Baudrillard, et évidemment Michel Maffesoli. Le chemin est semé d'embûches pour ces élèves, en raison de l'aura de scandale et de la marginalisation de l'école à partir des années 90. Le problème pour ces sociologues, c'est que l'autorité scientifique du leader n'est pas reconnue par la communauté, il ne fait pas consensus, pour le moins. Sa contribution n'est pas perçue comme de nature à transformer le mainstream scientifique. Les élèves qui, eux, la reconnaissent, se trouvent donc gênés et contraints d'endosser une identité intellectuelle paria. Alors, il reste néanmoins des niches universitaires où, par la voie normale, il aura été possible de faire miroiter des carrières. Les rares élus en sont redevables à vie, en même temps qu'ils sont condamnés à composer avec le stigmate du maffesolien qui leur colle à la peau. La seconde catégorie, donc le maffesoliste, autrement dit le lieutenant, dans la critériologie de Thierry Hacquin, renverse le stigmate. Il sème les dionysismes dès qu'il le peut, il se vêtit à la façon du maître, ça s'observe, il le défend contre les attaques d'où qu'elles viennent. Alors les rares maffesolistes qui ont obtenu un poste universitaire en France tirent toutes les conséquences pratiques de leur système de croyance. Là je vais prendre un exemple, Vincenzo Susca, qui est maître de conférence à Montpellier, qui multiplie les énoncés à moitié cryptés dans son ouvrage « Joie tragique », bel oxymore. Je cite « Nous sommes tous des masques, des bouffons et des figures grotesques d'un carnaval débordant de son cadre, incontrôlable dans ses tumultes et dans ses dérives, au-delà et en deçà de la scène publique et du scénario médiatique, politique, économique et publicitaire. » Fin de citation. Ainsi, la duplicité est-elle poussée plus loin encore dans le simulacre ? Tout se vaut, les normes intellectuelles tombent, les tricksters se clonent, ils se jouent du monde, se clonisent sans prêter attention au lendemain. Carpe diem. Alors on comprend dans ces conditions que les évaluateurs du jeune Jean-Pierre Tremblay, n'ait vu que du feu dans l'article sur l'herméneutique de l'autolib, paru dans Société, qui simulait le simulacre au risque de l'absurde. Comme l'a reconnu Michel Maffezoli à l'occasion d'une interview pour Technicart, je cite, « Ce n'était pas sot du tout, très bien fait, ça correspondait bien à mon style. » Donc le zélateur sectaire, le plus prometteur, n'était en réalité qu'une fiction, un fake, ce que, sans aucune ironie, finalement, la sociologie de Michel Maffezoli avait annoncé et prophétisé. Et là, on va conclure.
30 secondes.
Attends, je fais quand même la petite conclusion qui est rigolote.
Ouais. Donc, pour revenir sur la critériologie qu'on a présentée au début, on trouve un certain nombre de critères qui correspondent dans ce qu'on appelle la Maffezoli, qui correspondent à tout ce qu'on a vu au début. L'existence d'un leader charismatique, ça marche. Ce leader charismatique qui dispose de capacités organisationnelles, ça marche. Le patron titulaire d'une chaire centrale, bon, ça a marché. Petit cercle, ça fonctionne. Le patron qui influence la carrière des autres membres, ça a fonctionné, c'est terminé. Par contre, voyons plutôt les choses négatives. L'existence de lieutenants proches du leader qui font le relais de sa vision du monde. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas des gens qui contribuent de façon particulière. On a des clones, d'une certaine manière, sans apport spécifique. Collège invisible, ça fonctionne parfaitement bien, donc c'est une enquête en cours assez long, mais il y a des éléments politiques, il y a des éléments liés à la franc-maçonnerie, etc. Sur le plan théorique et cognitif, c'est ça le plus important. Une école de pensée, si on s'en tient en programme de recherche, le terme est beaucoup trop flou, au sens où c'est simplement la mobilisation d'un schéma herméneutique, donc ça regroupe aussi bien Morin que Baudrillard, que Maffezoli, que Irène Pennaconi ou je ne sais qui. Certainement pas, il n'y a pas d'école de pensée si on considère la dimension cosmologique, la cosmologie que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà.
Ouais,
et pour
bon.
Le reste,
ouais, c'est bon.
Je pense qu'on a terminé.
Le postmodernisme fait-il école, émergence, trajectoire et représentation? Donc la polémique entre les modernes et les postmodernes a présenté l'un des débats les plus marquants des dernières décennies en sciences sociales. Mais il a été difficile d'identifier le postmodernisme en tant qu'école de pensée unifiée. Mais si nous remontons à l'origine de cette idée, le postmoderne dans ses racines poststructuralistes, s'est d'abord construit comme une anti-tradition. Dans l'intention même et son esprit intrinsèque, il ne s'agit probablement pas de faire école, au sens où on l'entend en rapport aux expériences historiques passées. Façon peut-être inédite de faire école sans faire école, le postmoderne se révèle à la fois être intellectuellement un moment dans le discours, mais il caractérise tout aussi bien un état social de la pensée elle-même. Aucun des philosophes post-structuralistes, de ce qui constitue aujourd'hui rétrospectivement, la French Theory, ne s'est référé comme étant postmoderne. Ils ne sont pas déclarés comme postmodernes. Certains, comme Foucault, niant même être postmoderne, d'autres évoquant, comme Baudrillard, leur confusion quant à la diversité des courants et l'antagonisme des contenus. Donc, apparaissant dans des sphères multiples et variées, il est extrêmement difficile d'identifier un contenu fixe, parce qu'il n'y a pas de leader, ni même un capital de ressources univoque que mobiliseraient systématiquement les auteurs dits postmodernes, chacun de ces philosophes se percevant singulier par rapport à l'autre. Il existe également d'importantes variations dans la radicalisation du socioconstructivisme ou la compréhension du relativisme. Les transformations décrites par les postmoderne, ou la question de la postmodernité en soi, sont définies tantôt sur leur valence positive, tantôt négative. Boyman explique que cela fait partie de l'ambivalence de la condition postmoderne, à savoir quel versant triomphera relève selon lui d'une question morale et appelle un jugement. Cette dispersion des contenus ou des descriptions pourrait renforcer l'impression que le postmoderne n'est qu'une expression du fragmentaire, du désordre ou de l'ambigu de notre époque. Seul le philosophe Lyotard semble véritablement souscrire au label, bien que cela soit pour définir un contexte, une condition, nous pouvons dire un moment de la pensée, un état de la pensée, dans un contexte donné, notamment un contexte politique, la fin de la grande figure de l'alternative, la perte de légitimité des grands récits de la modernité et la multiplication des micro-récits. Le moment postmoderne peut être interprété pour Lyotard comme le mouvement intrinsèque de la pensée moderne, c'est-à-dire comme une étape historique d'un processus plus ample, l'exigence de vérité de la science appliquée à la science elle-même, dans sa prétention à connaître et à changer le monde. Autrement dit, la déconstruction, pour le philosophe des sciences Hacking, qui est un produit de la métaphysique socio-constructiviste, paraît inhérente à la modernité et s'applique invariablement à tous les objets synthétiques de la pensée, comme du monde social. De la même manière que, explique Lothar, la métaphysique du développement ne semble plus avoir d'autre but qu'elle-même, c'est-à-dire la poursuite mécanique du processus de différenciation. C'est ainsi que Lothar, mais aussi Derrida, conçoivent ce moment de la pensée comme résultant d'un mouvement critique interne à la modernité. Pour l'un, le travail des avant-gardes artistiques, qui dévoile l'imprésentable modernité, pour l'autre, les philosophes occidentaux, Heidegger, Nietzsche, qui déconstruisent le signifié transcendantal. Mais s'il s'agit de questionner la structure interne ou le statut historique de la rationalité dans la transformation sociale et politique du monde moderne, il est plutôt question chez Lyotard de prendre acte de ce contexte et de tenter de relégitimiser la science sur de nouveaux principes qui probablement pourraient soutenir l'élaboration d'un édifice politique. Ainsi, j'ai essayé de le montrer dans deux livres. Le postmoderne sert à décrire ce moment dans la synergie de ces changements, à la fois tout d'abord des changements esthétiques, littéraires, artistiques, puis des changements métaphysiques, philosophiques et scientifiques, et enfin des changements peut-être sociaux, anthropologiques et culturels. Socio-anthropologiques et politiques. Le postmodernisme, défini comme tel, cherche par là à réanimer les idéaux déchus de la modernité et serait tributaire d'une utopie moderne différente dans sa forme plus que dans son contenu. Le postmoderne ainsi conçu, plus qu'une école de pensée, désigne un moment de la modernité qui entend réanimer les valeurs du moderne. Une modernité qui, sous une perspective critique ou généalogique, semble avoir dévié de sa trajectoire historique par des formes de captation de sens ou de capitalisation symbolique. Afin de travailler les interstices de cette modernité contradictoire, le postmoderne devient moment herméneutique ou heuristique dans le discours pour mettre à jour les références, déstabiliser le discours, clarifier le différent. Ce moment disruptif dans le discours moderne a vocation à instituer la différence dans une unité trop bien comprise et dans le même temps cherche à établir un pont dans la signification entre la multiplicité des références. Lyotard l'écrit, la différence ne fait pas système. Elle n'a pas vocation à faire système, elle ne fait sens qu'en fonction du système. De ce fait, plus qu'un dogme paradigmatique, le postmoderne fait référence à une mouvance ou à une sensibilité théorique abordant la société contemporaine et relevant d'une certaine manière d'un rapport esthétique au développement de la modernité et peut-être au-delà. Ce que partagent les postmodernes, c'est une intention, relire et réécrire la modernité, pas simplement une relecture, mais une relecture qui serait réécriture. Je vois parce que chaque fois c'est la même histoire. Dans ces discours, les thèmes de la relecture et la teneur des réécritures peuvent varier, ce qui donne une certaine élasticité à l'idée elle-même. Cette manière de faire concept, sans vraiment vouloir établir les fondations d'un dogme, j'ai pu appeler cela, avec un néologisme, une sorte d'idéologie idéologique. C'est-à-dire une reconstruction idéologique qui implique dialectiquement dans sa propre construction le processus de déconstruction pour éviter de réifier le signifié dans sa signification et permettre le jeu du signifiant, ce qui est la force herméneutique et heuristique ou l'aporie essentielle de l'idée et de la mouvance postmoderne. Cette façon de faire sens sans imposer un sens aux choses, façon de faire école sans faire école, espèce de collège invisible partageant une sensibilité commune, est en soi plutôt inédit. Nous le retrouvons à la société, dans les types d'engagement des nouveaux mouvements sociaux, dans la remise en cause des instances formelles ou le refus de la verticalité des organisations et des partis politiques. En ce sens, le postmoderne en lui-même, comme forme de pensée, est bien une figure de son temps. Il encode les contradictions d'une situation contemporaine problématique. Mais cette identité fluide, ce flottement du sens ou élasticité sémantique, est justement ce qui permet l'appropriation et la diffusion de cette idée dans d'autres types d'écoles et de courants. Donc, j'ai essayé d'identifier plusieurs courants, et je vais un peu accélérer, pas forcément dans mon débit, mais je vais accélérer la présentation. Il y a un fond épistémologique commun entre plusieurs courants qu'on peut identifier comme étant, par exemple, différents dans la reconstruction de la théorie sociale et dans l'unicité d'une conception du social dans un contexte dit postmoderne. Il y a bien sûr la branche poststructuraliste que j'ai évoquée, la branche postmoderne de la philosophie continentale, à forte dimension herméneutique, qui sont un peu les pères fondateurs. À la même époque, il y a aussi la matrice américaine postmoderne, inspirée par le pragmatisme avec Richard Rorty. Il y a la branche post-marxiste avec Jameson, Lash, Negri et Hart, qui cherche à recréer un espace narratif dans lequel les micro-récits pourraient recomposer la critique sociale dans un nouveau récit sur le développement. Il y a notamment le projet de démocratie radicale de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui a pour objet une refondation radicale des institutions par une socialisation de l'organisation productive et de la forme politique et une application du perspectivisme à la démocratie participative et une critique de l'hégémonie en tant qu'universalisme. Donc c'est la promotion dans le projet de démocratie radicale que j'ai beaucoup utilisé, d'une politique inclusiviste fondée sur la participation généralisée aux signifiants politiques. En France, il y a bien sûr la branche de la sociologie de l'imaginaire, Durand, Maffezoli et Takusen, qui travaillent sur la transformation et la perdurance des systèmes symboliques dans les schèmes sensibles de la vie quotidienne. J'ai nommé branche sensualiste à partir du moment où c'est une approche sensible de la vie sociale, fondée sur l'éthique de l'esthétique et une forme de vitalisme. Enfin, il y a la branche politique de civilisation, que j'ai assimilée à Edgar Morin et Michel Freitag, qui place la transition sur une perspective de long terme, anthropocentrique ou globalisée, et convoque une réforme de la pensée et du système fondée sur une éthique aporétique et une réflexion ontologique fondamentale. Ce courant se situe un peu à l'écart et semble englober les autres. On peut trouver des distinctions dans cette configuration, des lignes de démarcation. Il y a d'abord la branche sensualiste qui étudie l'éthos de la postmodernité, dont l'identité en transformation semble positive dans une forme de spontanéité du social, et une branche post-marxiste qui envisage la question identitaire sur un plan culturel plus problématique et critique, tout en réintroduisant la question des inégalités. Distinction aussi essentielle entre un postmodernisme déconstructif du poststructuralisme, dit postmodernisme continental, je l'ai dit à vocation herméneutique, discutant de l'esprit du temps et d'un processus de signification plutôt symbolique, et de l'autre, un postmodernisme reconstructif, inspiré par le pragmatisme américain, qui s'engage dans la description systématique des changements structurels dans les sphères sociales, économiques, politiques. Englehart, Crook, Palski, Smart, Turner. Mais qui fait aussi de la reconstruction d'une philosophie positive sa raison d'être. Et par exemple, les Sunny Press Studies à New York, Constructive Postmodernism, avec Frédéric Ferret et David Ray Griffin, qui sont parfois teintés de théologie. Et si nous procédions par pays, nous pourrions parler de l'acclimatation d'un postmodernisme indien ou africain, postcolonialisme, d'un postmodernisme d'Europe de l'Est, lié à l'ère postcommuniste, ou littéraire dans la Russie contemporaine, et aussi un postmodernisme chinois dans une vision syncrétique du marxisme, de l'écologie et du taoïsme. Néanmoins, et c'est la thèse soutenue aujourd'hui, si le postmoderne semble n'avoir été qu'un moment, c'est parce qu'il a fait peut-être l'objet d'une appropriation par d'autres courants de pensée. Il s'est disséminé dans d'autres courants, notamment du fait probablement du caractère diffus de son système et de la fluidité de son contenu doctrinaire. Je prendrai trois exemples, mais je vais aller très vite parce que j'ai l'impression que je n'ai plus le temps. Je dirai premièrement trois moments, l'anthropologie postmoderne critique, ce qu'on a appelé le débat post-positiviste, hein. On pourra revenir là-dessus, mais la destination vers des savoirs de plus en plus qualitatifs. Deuxièmement, la trajectoire empruntée par toutes les studies, gender, feminist studies, cultural studies, subaltern, postcolonial studies, science studies. Je pourrais revenir trait par trait sur ces studies, mais les gender, c'est la déconstruction du genre, c'est une certaine structure patriarcale. Les cultural studies, c'est la déconstruction du texte culturel, et la critique du système de signification en termes de rapport, jeu du signifiant et du signifié. Les postcoloniales, c'est la déconstruction du récit universel occidental, la désidémentation de l'épistémologie occidentale dans les savoirs colonisée. Pour les subalternes, nous avons des notions postmodernes très claires, questionnement de la notion de frontière, de l'entre-deux, logique du tiers inclus, d'hybridité et même de pluriverse. Les science studies, Latour étant souvent décrié comme un penseur postmoderne, c'est la mise en place de processus réflexifs interrogeant la science comme représentation exacte de la réalité naturelle ou sociale. Socioconstruction de la réalité scientifique à travers les discours, les institutions et les formulations de problèmes et controverses. Mais ce moment épistémologique, troisièmement, me semble être synthétisé par le compositionnalisme de Latour et d'Escola. Je vous explique. C'est au fond la situation théorique contemporaine décrite par Touraine d'une fin du concept de société, d'une déconstruction des catégories synthétiques d'analyse, d'une diffusion de l'idée d'un matérialisme radical dans le sens où il est nécessaire d'analyser les trajectoires des acteurs sur un plan radicalement immanent, c'est-à-dire relativiste. Lié à la déconstruction de la distinction nature-culture, il s'agit d'étudier les trajectoires d'association d'acteurs, à la fois humains et non humains, dans une métaphysique appliquée. Les identités sociales ou ontologie sociale ne peuvent être présumées, on parle d'ontologie plate, dès lors que l'ontologie hybride des éléments associés ne peut être analysée que dans leur devenir même et l'émergence graduelle ou composition de ces collectifs. On a pu parler, après le tournant linguistique, du tournant ontologique. Donc si vous voulez, Latour et d'Escola ne se disent pas relativistes absolus, mais mesurés. De même qu'ils ne souscrivent pas au terme de constructivistes, mais dans leur propre néologisme, ils se disent compositionnalistes. En d'autres termes, cette pensée novatrice serait relative à un structuralisme qui a assimilé les critiques post-structuralistes, en dépassant supposément le moment postmoderne vers une configuration inédite. On pourrait aussi définir, je arrive à ma fin, on pourrait définir aussi le postmodernisme en fonction de ses ennemis ou de ses inimités. Et c'est vrai que c'est une situation assez paradoxale de voir que les postmodernes n'existent pas, mais par contre les critiques sont foisonnantes. Hein. Et donc il y a une sorte de mise en tradition par les critiques d'une entité un peu anonyme, et puisque personne ne se dit postmoderniste. Mais si on regroupe un peu ces critiques, moi je parle surtout d'un livre, un livre de 2013 qui a eu le prix de l'impertinence Le Figaro, La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme. Si on lit ce texte, l'idéologie postmoderne est responsable de la faillite sociale parce qu'elle met en œuvre, de manière volontariste, une déconstruction généralisée du réel, de la nation, de l'humain, homme-femme, et de la transcendance religieuse. À la suite de cela, s'engouffre la fachosphère qui voit dans le postmoderne les destructeurs de l'identité fantasmée. Les néo-identitaires et les néo-conservateurs sont donc généralement les ennemis de cette doctrine, qui semblent pour eux perdre la culture, alors qu'ils ne voient pas que peut-être la culture évolue. Une minute, c'est vraiment court. Alors, pour finir, on va finir alors. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que ce mouvement est inhérent, en fait. La déconstruction, l'adécentrement qu'on est en train de vivre, ce processus n'est ni bon ni mauvais. N'est pas forcément une perte, mais peut être un accroissement du sens, a toujours été et sera toujours accompagné d'un contre-mouvement, d'une réaction, qui n'aura de cesse de nier ce processus historique inaltérable, et qui va chercher à revenir à un état de choses intérieures, plutôt qu'à tenter d'accompagner la réforme du savoir et la transformation même de la notion de vérité. Le partage d'un diagnostic me semble... Il y a deux choses qui me semblent importantes à comprendre. Que nous sommes dans une transformation économique, verte et informationnelle. C'est ça que partage aussi le diagnostic de la crise. Les postmodernes partagent ce diagnostic de la crise. Et en même temps, nous sommes aussi dans une transformation culturelle très forte, due à l'appropriation des technologies et aussi à la transformation anthropologique de la famille, des identités sexuées et du couple. Donc moi, je me suis plutôt penché vers un postmodernisme reconstructif, et notamment, je pense qu'il faut s'intéresser à la postmodernisation de la politique et à la postmodernisation de l'économie, avec notamment Engelhardt sur la postmodernisation de la politique et Negri et Hart sur la postmodernisation de l'économie. Et je voulais simplement dire qu'au moment où les postmodernes deviennent postmodernistes, c'est qu'au fond, ils partagent un diagnostic mais qui est celui de la saturation, une saturation hypermoderne, on pourrait dire, mais que le postmodernisme dans sa vocation reconstructive signifie la tentative de dépassement de cette saturation dans une optique de changement social. C'est là que les postmodernes deviennent postmodernistes. Le jugement moral dont parlait Boyman, c'est-à-dire distinguer une valence négative, l'hypermodernité selon moi, et une valence positive dédiée à créer une condition postmoderne, peut-être plus porteuse d'opportunités sociales. Et je finis là-dessus. Si on pouvait parler d'une sociologie postmoderne en soi, pas une sociologie du postmoderne, je dirais que, au fond, la sociologie postmoderne, intellectuellement, va partager une situation, si elle veut se construire, un cadre normatif. Un contexte, celui du contexte post-social, c'est-à-dire une absence de cadre analytique à partir duquel concevoir la solidité du social, la déconstruction et l'état de notre culture, nous en sommes là. Deux, un objectif, reconstituer le puzzle de la société et de l'histoire dans l'interdisciplinarité et en fonction d'une herméneutique sociale de la participation. Trois, favoriser dans cette reconstruction, le troisième type de savoir, c'est-à-dire un savoir avec la société, soit une participation sociale à la recomposition. Et quatre, il faut accompagner la transition dans les différents champs à partir de cette méthodologie en dépassant la saturation et en appliquant une éthique aporétique qui permettrait de faire émerger de nouveaux principes de normativité et de nouvelles formes d'organicité, comme renouveler la conception de la positivité.
Jean-Christophe, on peut prendre 5 minutes de questions.
C'est le moment. Ouais. C'est le moment postmoderne.
Donc sur les deux communications finalement.
Je peux poser une question. Je vais pouvoir leur poser une question. Je vais leur poser une question.
Oui, monsieur.
D'accord.
On reconnaît la pertinence, là tout en dessous, du diagnostic. Là, je pense à Alain Touraine, à voir un certain nombre d'essais, dit qu'il a senti quelque chose. Il a reniflé un basculement paradigmatique des essais des années 90. Je ne sais pas si ça marche encore ce discours aujourd'hui, mais il y a des gens qui disent on a fait des entretiens, par exemple, aussi des Touraine, il y avait Bourricot aussi, qui disait ouais, il sent des trucs. Il sent des trucs, le retour d'œuvre, etc. Donc, il y a au-delà de la valorisation de du grand soir postmoderne, il y a aussi une dimension de il a vu quelque chose. Et il faut accorder crédit éventuellement à ses hypothèses. Donc ça c'est plutôt dans les années 80-90. Après, disons, ça commence à vaciller un petit peu dans la pertinence sémantique de cette théorie, parce que ça repose sur pas grand chose. On pourra en discuter ensemble. Et, bon, on pourrait apporter cet élément-là. Après, j'ai fait des entretiens très longs biographiques avec des gens qui ont été absolument convaincus au début des années 80, qui bossaient en travail social ou autre. Pas seulement en France, je disais, moi, ça a été la révélation absolue, spirituelle. J'étais reconfiguré. Quelqu'un qui a passé du tourénisme à ma vie directe, comme ça. Vraiment, ça a été un basculement biographique, un choc, une révélation.
Cette même révélation, peut-être on allait l'expliquer en se disant que, pendant la télévision de Christophe, qu'un certain nombre d'individus adhèrent à cette reconstruction
relativement ineffable, d'autant plus qu'on les interroge souvent sur une révélation qui a eu lieu il y a 30, 35 ans, 40 ans, pour certains. Donc là, il y a une part aussi de reconstruction qui est intéressante aussi à analyser dans la biographie de ces interlocuteurs.
Et autre point très rapidement, parfois les individus adhèrent juste à une section de méthodologie, par exemple à l'anthropologie ou à l'éthiologie, à la théorie du mal, mais certainement pas à la dimension sotériologie, comment sortir hors du mal. Ça, c'est le cas d'Éric Zemmour, par exemple, qui disait, lors d'une interview télévisée avec Michel Mazzoli, moi je suis totalement d'accord avec ma thèse. Simplement, je ne suis pas d'accord avec ça. Son optimisme, je pense qu'on va vers la catastrophe. Et donc, il insiste sur l'aspect éthiologique, pour modernité comme rôle compresseur des identités, etc. etc. mais il ne va pas du tout adhérer à la dimension sociologique.
Oui, il y a une autre question aussi.
Non, c'était une remarque. Je crois que c'est important de se dénationaliser, c'est-à-dire de voir le débat scientifique dans un contexte mondial. Et bon, m'a fait l'expression du postmodernisme, de la sociologie de la postmodernité en France, mais il y a un champ qui est mondial dans cette, l'utilisation de ces idées. Et même s'il y a des temps différents dans l'acclimatation de l'idée, je peux vous dire que dans d'autres pays, c'est le moment de cette acclimatation, alors que nous semblons peut-être être au bout du processus même de cette acclimatation. Je pense que c'est important, ça, de voir un contexte international sur la signification du courant et de ce que ça veut dire, hein, aussi en termes de changement social. Mais sur votre intervention à tous les deux, je me disais, mais en fait, ils sont postmodernes sans savoir. Vous voyez ? C'est exactement ce que je me suis dit. Mais bon, après, parce que je reprends un petit peu les termes, je prends un peu dans l'esthétique, parce que j'ai étudié l'esthétique postmoderne, et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est un courant, l'architecture postmoderne est importante, mais vous faites en fait du fake, du pastiche, de l'ironie, vous simulez le simulacre, alors vous êtes dans le post-postmodernisme, vous êtes des déconstructeurs d'une icône, et notamment vous déconstruisez les dualismes ontologiques implicite dans sa pensée. Donc, en tant que forme, vous voyez, moi, je pourrais dire, tiens, je vois une forme postmoderne d'intervention. Vous avez, voilà, c'était un peu ma question. En quoi vous pouvez théoriser, vous pouvez vous penser dans cette forme d'intervention culturelle postmoderniste, ouais. Ou postmoderne.
En fait, le pastiche que vous recevez comme un acte postmoderne, en fait, c'est basé sur une analyse assez serrée du style mathésonien.
Qui accompagne le pastiche. Le pastiche, c'est juste pour envoyer la critique et l'analyse. Il ne faut pas trop le prendre au sérieux.
Moi, je trouve que dans cette dégrédienne, une sorte dégrédienne avec le moment négatif dans lequel nous sommes, et une sotériologie, un dépassement qui se passerait moins tard. Dans cette dégrédienne, il y a une espèce de schéma pliatique dégrédien dans l'anthologie et théologie de sotériologie, qui me paraît assez évident.
Il se trouve que nous, on a lu les écrits de jeunesse, sa maîtrise de philo, sur Heidegger et Marx, et clairement, la dimension, voilà, c'est ça conclut sur leur livre, tout, mais vraiment dans l'appel, une espèce de négativité qu'il faut délectiser en positivité, et on est en effet dans, c'est clairement heideggerien, c'est on retrouve la clarté de la prévie, et de la confusion avec les lettres qu'on avait perdu, etc. Il y a vraiment cette dimension de sortie, de l'oppression, de l'aliénation. Là, oui, mais